Chers auditeurs, si l'œuvre de séminaire était un souci permanent pour les trois premiers évêques concordataires, Monseigneur Lacroix, lui, donne l'impression de n'avoir aucune inquiétude à ce sujet. Il se contente de reproduire chaque année, dans le mandement de carême, une formule stéréotypée qui rappelle aux curés et desservants d'avoir soin de recueillir les aumônes pour les séminaires dans la quête qu'ils feront le matin et le soir de Pâques. Ils auront bien sûr à rappeler à leurs paroissiens l'importance et la nécessité de l'œuvre des séminaires. Le recrutement des séminaristes ne semble pas non plus faire problème. Il se fait dès le jeune âge et c'est Monseigneur d'Astros qui, dans les années 1820-1830, a établi les critères de discernement d'une vocation d'enfant. Ils sont toujours valables, y compris ceux qu'il avait prévus pour les enfants issus de milieux défavorisés. Ce siècle connaît des périodes de pénurie et de difficultés économiques. Comme un grand nombre d'enfants nés de familles pauvres demandent à étudier pour être admis dans l'état ecclésiastique, les curés examineront avec grand soin tout ce qui concerne ces jeunes candidats et leur éventuelle vocation. Peu à peu, l'organisation de secours et de bourses permettra à ces enfants pauvres, mais qui présentent des signes de vocation, de ne pas trop souffrir des différences trop criardes qui pouvaient se révéler entre séminaristes dans la vie même du séminaire. De même que l'ordination des prêtres, les dispositions arrêtées par Monseigneur d'Astros demeurent en vigueur. Pour la prêtrise, ils seront admis que ceux qui auront étudié pendant 4 ans en théologie et qui seront au moins depuis 3 mois au séminaire de Bayonne. Durant les 2 premières décennies de ce siècle, le souci principal de Monseigneur Loison avait été de pourvoir au remplacement des prêtres décédés ou démissionnaires. Si en 1820, l'année de la mort de Monseigneur Loison, on compte 50 décès et seulement 12 nouveaux prêtres pour les 3 départements, en 1828, pour le seul département des Basses-Pyrénées, le nombre des ordinations égale celui des décès. Et à partir de là, les proportions vont même s'inverser. Les ordinations de prêtres descendront rarement au-dessous de 20, atteignant des pics de 30, tandis que les décès ne vont que rarement excéder la quinzaine. De ce fait, le clergé du diocèse s'accroît rapidement et les diverses institutions, séminaires, collèges, aumôneries, en bénéficient. En 1878, à la fin de l'épiscopat de Monseigneur Lacroix, on dénombre au diocèse de Bayonne 875 prêtres, en y comptant, il est vrai, les 75 prêtres auxiliaires de Bétharram. Durant tout ce temps, 87 paroisses nouvelles sont créées et immédiatement pourvues d'un desservant. C'est un clergé sérieusement occupé au service des fidèles, exigeant pour eux, mais exigeant tout d'abord pour lui-même. Au cours de leur formation au séminaire, les futurs prêtres ont pris conscience des responsabilités qui allaient peser sur leurs épaules et comme curés et vicaires, ils se comportent pour la plupart en véritables pasteurs. Ce clergé évolue dans une société rurale, demeurée encore stable, qui ne connaît pas les changements survenus dans les grands centres urbains avec l'industrialisation. Cependant, les campagnes du Béarn et du Pays Basque connaissent le phénomène de l'émigration et cela inquiète les curés et les desservants. Ils vont bien sûr essayer de s'opposer à ces départs, parfois massifs, de jeunes vers l'Amérique latine, mais sans succès. Et il faudra envisager de leur procurer une aide spirituelle là-bas, à Montevideo, à Buenos Aires ou dans les plaines de la Pampa. Les disciples de Michel Garicoitz s'y emploieront avec beaucoup d'efficacité. La pastorale que ces prêtres appliquent auprès de leurs fidèles est des plus traditionnelles et s'inspire des décrets du Concile de Trente. Le dimanche demeure le temps fort de la vie paroissiale avec la messe solennelle et le sermon. La redécouverte du Christ qui caractérise la vie spirituelle du XIXe siècle devait amener nécessairement les fidèles à aborder l'Eucharistie dans un esprit nouveau. La piété eucharistique va désormais se manifester sur deux plans, celui de la communion sacramentelle et celui de l'adoration du Saint-Sacrement, contre l'esprit du jansénisme qui avait plutôt éloigné les fidèles de la Sainte Table. En 1846, et puis les années suivantes, le programme des conférences ecclésiastiques aborde l'étude des sacrements à partir d'un questionnaire très développé. Les demandes qui concernent l'Eucharistie indiquent les points qui préoccupent les pasteurs d'âmes. Est-il bien avantageux de communier souvent? Est-il demandé aux prêtres réunis en conférence? Quelles sont les dispositions requises pour la fréquente communion? Et concernant l'admission des enfants à la première communion, la première communion qu'on leur fait faire en commun et avec solennité n'est-elle pas préférable pour l'ordinaire à celle qu'on leur ferait faire en particulier? Pour orienter leurs réponses et surtout leur façon de faire sur le terrain, les prêtres avaient à leur disposition les statuts de Mgr d'Astros, qui rappelait par ailleurs que l'âge convenable pour être admis à la première communion était plus communément de 12 ans pour les filles et de 13 ou 14 ans pour les garçons. Au Concile d'Auch, en 1851, les évêques de la province ne voudront rien imposer pour l'âge de la première communion. Ils demandaient simplement aux pasteurs d'âmes de ne pas trop retarder la première communion qui pouvait être une aide précieuse contre l'assaut des passions. Par contre, les évêques vont inviter tous les chrétiens à se nourrir fréquemment du pain d'effort, en particulier chaque fois qu'ils assistent à la messe. Cette demande sera relayée par les exhortations fréquentes de Mgr Lacroix. Mais on sait combien il est difficile d'aller à l'encontre des habitudes. Et puis, la rigueur du jeûne eucharistique et souvent les distances à parcourir sans avoir pris de nourriture étaient des obstacles très réels. La nouveauté que Mgr Lacroix va instaurer dans le diocèse sera l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Tous les jours, dans une ou plusieurs paroisses, le Saint-Sacrement sera exposé et proposé à l'adoration des fidèles. L'ingratitude des hommes à l'égard du Sauveur, dira Mgr Lacroix, est un nouveau et pressant motif pour nous de redoubler de zèle et de dévouement envers cet auguste mystère, de multiplier nos adorations, de faire amende honorable au cœur de notre divin Maître pour l'oubli, pour la froideur, pour l'ingratitude dont il est l'objet dans le sacrement de son amour. Le règlement publié en même temps que le calendrier organisait dans les moindres détails le déroulement de ce jour d'adoration qui sera, était-il précisé, assimilé aux fêtes les plus solennelles. Les fidèles étaient invités à le consacrer entièrement à honorer notre Seigneur, sans qu'il y ait cependant pour eux obligation de s'abstenir du travail. À l'adoration perpétuelle, sera ainsi célébré dans le diocèse avec beaucoup de régularité jusqu'aux dernières années du XXe siècle, selon le calendrier et le règlement établi par Mgr Lacroix, et constituera, selon les directives de ce dernier, une des principales fêtes liturgiques dans l'année dans la plupart des paroisses. Nous verrons la prochaine fois le développement des dévotions et des ordres religieux nouveaux dans le diocèse.